On démarre avec vous, Gaël Simel, donc président de Doxa. Donc Doxa fait ce baromètre, voilà, en interrogeant, voilà, de façon
avec AJP, Challenge et BFM, voilà, tous les mois.
Les 1000 personnes interrogées, échantillons des Français. Et ben on va voir un peu. Voilà, il y a en gros trois quatre indications que l'on va pouvoir retirer de ce baromètre. Première question, depuis ces dernières semaines, êtes-vous plutôt confiant, moins confiant concernant l'avenir de la situation économique de la France? C'est marrant, j'ai un petit
On sait, Frédéric, que les Français sont pessimistes, quoi qu'il arrive. Quand on fait des benchmarks internationaux, nous sommes même, s'agissant de notre confiance collective en l'avenir, le peuple ou un des peuples les plus pessimistes au monde. Ce qui est intéressant avec le baromètre, c'est qu'on suit ça tous les mois, un petit peu à la manière d'un indice INSEE. Et d'ailleurs, on reconstruit un indice à partir des résultats. Et parfois, c'est pire que d'habitude. Et c'est ce qu'on observe depuis 2 ans, c'est encore pire que ce qu'on observait globalement depuis 20 ans qu'on suit le moral des Français. Ouais. Et depuis ces derniers mois, on a un encéphalogramme qui redescend encore à certains moments. Et c'est le cas ce mois-ci avec un indice de confiance désastreux. 84% des Français nous disent qu'ils sont moins confiants en l'avenir de la situation économique de leur pays. Et ceux qui se disent plus confiants depuis ces dernières semaines ne sont que 16%. Ça nous fait un indice de moins 68. Fait très froid, moins 68 degrés, hein, dans ces périodes de canicule. Et les explications, c'est d'abord, une défiance structurelle qui est liée au contexte de non-pilotage de notre pays depuis la dissolution et l'impossibilité, en réalité, que voient bien les Français pour tout gouvernement de pouvoir mener...
Donc on part du politique, ensuite on dit il y a l'économie, le reste, ça ruisselle un peu sur tout le reste.
Exactement.
Heureusement, il y a le foot. Pour l'équipe de France.
Oui, mais regardez, le moral économique n'est pas affecté pour l'instant par les bons résultats de l'équipe de France de foot, qui est une des rares équipes parmi les favoris de la Coupe du Monde à briller. Et pourtant, ça ne suffit pas. Donc, très sérieusement, vous avez une défiance globale depuis que l'on sait qu'aucune politique ne pourra être menée dans le pays qui nous permettra de redresser la barre. Les Français l'ont compris depuis 2 ans. Donc on attend 2027 et c'est long, 2 ans. Deuxième élément qui joue, le contexte international avec ses angoisses et notamment cette inquiétude sur l'inflation liée au prix de l'essence et le fait qu'on ne croit pas une demi-seconde aux annonces chaque seconde sur Truth Social ou d'autres réseaux sociaux de Donald Trump. Quand Trump dit c'est fini la guerre avec l'Iran et que dans la minute qui suit on voit qu'Israël frappe encore le Liban, pour les Français tout ça n'a aucune valeur et on n'est pas sorti de l'auberge, si vous me passez l'expression, à leurs yeux.
Et puis même je suis persuadé que si on interrogeait les Français aujourd'hui, on leur demanderait le pétrole ça monte ou ça baisse, tout le monde serait pas... Je suis sûr que les gens diraient c'est beaucoup trop en ce moment à cause
alors
de la guerre.
Alors que c'est trop, ils le diraient sûrement. En revanche, il y a un point qui est ce qui explique que le côté très agaçant de la hausse du prix de l'essence pour les Français, c'est que c'est un des rares domaines où vous voyez votre argent brûler sous vos yeux. Oui. Parce que quand vous êtes à la pompe, vous voyez défiler le prix que ça représente. Ils ont une idée assez précise quand même du prix. Mais ils pourraient vous dire que ça augmente quand même, parce que même si ça a baissé quelque peu, ils se disent que ça va réaugmenter dans peu de temps, tant qu'on n'est pas dans une situation stabilisée. Voilà pour l'aspect moral économique. Après, il y a d'autres éléments qui sont un peu notre marronnier avec Challenge et BFM et AJP qu'on suit tous les ans, qui est le regard qu'on porte sur les riches. Et là, on aura d'autres éléments.
On va y revenir dans un instant. Et puis, j'aimerais justement, juste avant de revenir sur les riches, on reviendra aussi sur un baromètre que vous sortez aujourd'hui à l'occasion des rencontres d'Aix, où le thème, c'est ça, c'est comment gouverner sans repère.
Comment se diriger dans un monde sans repère, c'est le thème des rencontres d'Aix. Et avec Confluence et le journal L'Opinion, on a décidé de poser un certain nombre de questions aux Français sur cette question des repères. Et pour résumer, pour vous en faire le pitch court, on observe que pour les Français, nous sommes bien dans un monde qui a perdu tout repère. Quand on les interroge sur ce que sont les repères, donc que ce soit les valeurs, que ce soit les institutions, ils ont un sentiment, à mon avis, à l'excès, mais ils ont un sentiment d'énorme dégradation depuis 30 ou 40 ans. Et finalement, ils nous disent qu'ils n'ont plus guère confiance dans ce qui faisait les repères autrefois, et notamment l'idéologie et la politique, par exemple. Et que... peut-être que c'est encore l'entreprise qui reste un phare pour eux, un domaine où ils peuvent conserver quelques repères.
Ils ont raison.
Et les gardiens du phare, c'est BFM Business. Voilà, justement, on vient rallumer la lumière, tout ça. Je reviens, Thomas Glébine, donc justement, sur le moral économique des Français. Oui, pas de surprise, mais justement, essayons de trouver comment, hormis...
leur redonner le moral.
Hormis l'équipe de France de foot, où on espère fera des étincelles, comment redonner moral aux Français d'un point de vue économique ?
Ce qui serait intéressant, c'est de voir le mois prochain l'indicateur, parce que quand on regarde les chiffres économiques, ce qui est impressionnant, il me semble, c'est que ça va quand même mieux depuis quelques semaines. C'est-à-dire que le prix du baril a quand même reflué de façon très significative. Les chiffres de l'inflation en France, mardi, étaient publiés, c'était autour de 2% au mois de juin, alors qu'on était plutôt presque à 2,8% le mois d'avant. Donc ça, c'est quand même des bonnes nouvelles, parce que ça veut dire que la dégradation forte du pouvoir d'achat qu'on attendait pour cette année sera probablement moins négatif que ce qui était attendu. Il faut savoir que, par exemple, dans les prévisions de la plupart des instituts, ce qui est estimé, c'était que le prix du baril resterait autour de 90 dollars dans les mois qui viennent. Donc là, s'il y a un reflux autour de 70 dollars le baril, c'est quand même quelque chose qui est, de nouveau, qui est une bonne nouvelle. Sur la croissance, ça risque. Ça veut dire aussi que la croissance, la dégradation sera potentiellement moins négative que ce qui était attendu. Et on voit bien que déjà, ça pose des gros problèmes pour les banquiers centraux qui étaient réunis hier à Sintra. Et donc, eux, il y avait quand même une tendance à remonter les taux pour essayer de casser cette inflation. Alors, on peut discuter, est-ce que c'était pertinent d'augmenter les taux alors que c'est de l'inflation importée? Donc, même si vous augmentez les taux, c'est pas ça qui va faire que le prix du baril baisse. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'ils sont encore plus, entre guillemets, en difficulté, parce que la Banque Centrale européenne a décidé il y a quelques jours d'augmenter les taux, et là, ça arrive un peu comme à contre-temps, alors que le prix du baril reflue, l'inflation...
On parle de ces repères que l'on perd, c'est un peu ça, hein, même les économistes comme vous, vous posez des questions sur ces décisions.
Ça va beaucoup plus vite. Donc, en effet, en termes de manque de repères, on estimait, beaucoup d'économistes estimaient que le baril du pétrole resterait à des niveaux plus élevés pendant beaucoup plus longtemps, que l'inflation resterait aussi à des niveaux plus élevés. Et là, en fait, ça reflue beaucoup plus rapidement que ce qui était attendu par la plupart des experts.
Léonidas, quel est le plus sur ce moral des Français?
Alors, je ne sais pas si les Français raisonnent comme des économistes. Parce que vous avez certainement raison en tant qu'économiste de regarder des indices, mais est-ce que tous les jours les Français se lèvent en regardant comment a évolué l'indice de l'inflation, est-ce qu'il est au-dessus ou au-dessous de 2%? Nous on regarde ça parce que ça fait partie de nos... Mais en réalité, je pense que le tableau que Kalsiman nous a décrit tout à l'heure, c'est le tableau, je ne sais pas si c'est de l'inquiétude ou du pessimisme, je pense qu'il y a un vrai sentiment de quelque chose qui est un peu en perte de contrôle, que ce soit les déficits, que ce soit la violence, les résultats à l'école. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments qui, je pense, donnent aux Français le sentiment qu'on est à un moment de gravité. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est peut-être les moments où un pays se réveille. Mais je trouve très intéressant que dans ce paysage très contrasté, l'entreprise ait trouvé une place qui est la sienne d'ailleurs, parce que entreprendre, c'est un acte de citoyenneté, c'est se tourner vers la société qui agit. Et quand la société agit, elle prend en main des sujets et entreprendre, c'est prendre en main des choses. Ça veut dire que la confiance dans l'État, eh bien, elle s'est véritablement affaiblie. Et tant mieux, c'est peut-être potentiellement une très bonne nouvelle. Peut-être que la raison pour laquelle notre pays est dans l'État dans lequel il est, c'est parce qu'il s'est tourné systématiquement vers l'État à chaque fois qu'il y avait un problème. Finalement, de se tourner vers les entreprises, c'est-à-dire c'est là que se trouve la richesse, l'imagination... même pour l'école, j'étais...
Après, il faudra voir quelle sera la combinaison entre les chefs d'entreprise. On les voit, ils commencent à réagir un peu.
Mais vous voyez à quel point des candidats, les Français, dans d'autres sondages, demandent à ce que les entrepreneurs participent au débat public, participent beaucoup plus et prennent la parole. Je pense qu'il y a, dans le collectif que BFM Business suit, ce collectif d'entrepreneurs que nous sommes tous, chacun avec ses nuances et ses secteurs, véritablement une parole qui est extrêmement gouvernement attendu, une parole concrète, proche du terrain, proche des réalités, de responsabilité. La liberté d'entreprendre, je ne sais pas ce que c'est, mais la responsabilité d'entreprendre, les entrepreneurs la vivent tous les matins. Et tant mieux si progressivement les entrepreneurs apparaissent comme ce que vous appelez, vous désignez comme le phare de la société. Pardonnez-moi de vous le dire, je trouve que c'est une excellente nouvelle, ce contraste entre une inquiétude générale ou une gravité générale et l'idée que les entrepreneurs peuvent être la solution. Eh bien, si c'est ça l'équation, c'est une bonne matinée.
Et les entrepreneurs, qu'ils soient riches ou moins riches, parce que justement, c'était une des autres questions. Je rebondis sur ça. Donc, question qui est posée hein, sur savoir mettre, c'est voilà, pour réduire les niveaux solutions... déficit, seriez-vous opposé à augmenter les impôts pour les Français les plus riches? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on en dit là?
On suit depuis pas mal d'années, effectivement, puisque malheureusement, ça fait pas mal d'années qu'on est quand même en direction du mur en termes de dette, de déficit, de situation économique macro pour notre pays. Et donc, on teste des solutions auprès des Français. Et les solutions, vous l'avez dit, Frédéric, c'est pour réduire le problème de la dette et des déficits publics, on ne l'appelle pas comme ça, mais quels sacrifices, quels efforts seriez-vous prêts à faire? Vous savez que l'être humain est ainsi fait, qu'on préfère toujours que l'effort soit fait par son voisin plutôt que par soi-même. Mais quand on regarde le détail des efforts qu'on est prêt à faire, il y a un enseignement, pour rebondir sur ce que disait Léonidas il y a un instant, qui est nouveau depuis 4-5 ans par rapport aux décennies précédentes, c'est qu'avant, quand on disait « on ne pourrait pas augmenter les impôts sur les entreprises, ce serait plus pratique quand même », les gens disaient « bah oui, ce serait quand même mieux ». Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, quand vous testez les différentes solutions, vous avez quasiment les deux tiers des Français qui disent « il ne faut pas augmenter les impôts sur les entreprises ». Alors qu'il y a bien d'autres solutions qui sont testées, qui ne sont pas forcément « cool », et qu'ils apprécient nos concitoyens, enfin qu'ils approuvent, pardon. Vous avez une des solutions qui est proposée, qui est de taxer les riches. Ça, structurellement, on a toujours une très large majorité de Français qui disent « oui, faisons ça ». Mais sans doute parce qu'ils estiment que ce n'est plus suffisant, ou qu'on est déjà à un niveau élevé, bah finalement, la part de Français qui disent « il faut taxer les plus riches » a baissé de 12 points par rapport à il y a 2 ans. Elle est toujours majoritaire, c'est toujours la première solution privilégiée, mais... ça baisse nettement. Et puis, vous avez des solutions qui sont plus dures, parce qu'on peut s'en prendre aux riches, on peut s'en prendre aux pauvres aussi. La majorité des
riche,
Français...
Un riche, vous l'estimez...
Alors, on va le voir juste après, parce que ça, on pourrait même faire un quiz, c'est passionnant.
Parce qu'un riche, c'est pas que Bernard Arnault.
Non, voilà, le riche, c'est pas...
Mais on va,
ça,
c'est mais les
ultra-riches. Faut pas spoiler, parce qu'on va y venir après. Et dans les solutions possibles, il y a l'idée de s'en prendre aux plus pauvres. Et les Français ne sont ni des riches, ni des pauvres. Et donc, réduction des aides sociales, eh ben oui, une majorité de Français y serait favorable. Il y a aussi l'idée de réduire le nombre de fonctionnaires, alors que les Français sont très attachés à leur service public. Ben, vous avez une majorité de Français qui y serait prêt. Tout ça est cité avant le fait de taxer les entreprises. Vous testiez le même sondage il y a quelques années, ben on vous disait pas ça. On vous disait faut d'abord taxer les entreprises et après réduire le nombre de fonctionnaires ou réduire les aides sociales. Et puis alors l'idée d'augmenter les impôts pour les entreprises, on est contre, je vous l'ai dit, et augmenter les impôts pour tous les Français, ça c'est pas possible. Et puis la bonne question, effectivement, c'est celle que vous posez, Frédéric. Mais c'est quoi un riche? Et c'est une question qu'on pose tous les ans depuis 20 ans. Et donc, c'est quoi un riche? Effectivement, Frédéric, c'est pas Bernard Arnault. Un riche, parce que lui, c'est un extraterrestre, il est hors champ. Oui. On n'imagine même pas ce que c'est. Un riche, c'est son voisin qui gagne 2 fois plus que soi. Et donc, un riche, c'est 5000 euros par mois. Quand on demande aux Français spontanément de placer le seuil de la richesse, à partir de quel revenu est-on riche pour vous? En moyenne, ou en médiane plutôt, les gens nous disent 5000 euros par mois. Et la part de gens qui situent le seuil de la richesse au-delà de 15 ou 20 000 euros par mois, c'est 1% de la population. Ouais. C'est-à-dire que personne ne considère... Enfin, le riche, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si riche que ça.
Non, on les côtoie tous les jours.
Ah oui,
on
le riche, c'est celui... quand je vous disais, c'est son voisin un peu plus riche que soi, je ne plaisante pas, parce que quand on regarde en détail les résultats depuis des années, en fait, c'est celui qui gagne 2 fois plus que soi, puisqu'on a le niveau de revenu des gens qu'on interroge, et on se rend compte qu'il situe la richesse à partir du moment où c'est 2 fois la leur. Et en patrimoine, un riche, c'est quelqu'un qui a un patrimoine de 500 000 euros ou plus. Donc là aussi, on n'est pas sur des patrimoines de dingue. Mmh. Mais pour finir, en réalité, sur un plan statistique, on peut les comprendre, les Français, parce que quand on regarde les quartiles et les déciles INSEE sur les différents qui découpent en tranches la population française, Eh ben oui, quand on gagne plus de 5000 euros par mois, on fait partie des 10% des Français les plus aisés. Alors évidemment, on peut pas s'arrêter de bosser en gagnant 5000 euros par mois et se dire c'est bon, je suis tranquille. Mais statistiquement, ils n'ont pas tort. Et je rappellerai, c'est la polémique qu'avait suscité François Hollande il y a 14 ans, en 2012, quand il avait dit « un riche, ça gagne 4000 euros par mois ». Ben, en réalité, statistiquement, ça n'est pas faux si on raisonne vraiment en quartile, en décile. Mais ça, c'est assez passionnant parce qu'à chaque fois, ça surprend les gens quand on raconte ces données.
Et j'aime bien le côté, c'est son voisin qui gagne deux fois plus. Thomas.
Oui, c'est son voisin qui gagne deux fois plus, mais peut-être surtout en Île-de-France, parce qu'il y a des zones plus pauvres où c'est pas le cas. Et comme je pense que comme disait Gaël, c'est très juste. Statistiquement, c'est vrai. C'est-à-dire, quand vous regardez les déciles de revenus, au-dessus de 5 000 euros net, vous êtes dans les 10%, et au-dessus de 5 500 euros net par mois, vous êtes même dans les 5% des salariés qui ont les plus hauts revenus.
Donc, c'est grosses agglomérations.
Mais Île-de-France, c'est vrai, Île-de-France, région parisienne, vous pouvez quasiment faire x2, en fait, pour avoir ces seuils-là.
Et ensuite, ce qui est intéressant dans le débat politique, c'est et quand on regarde notamment les mesures fiscales sur les plus riches, c'est l'évolution du débat. C'est-à-dire qu'il faut se souvenir que l'ISF, avant sa réforme, ça touchait 1% des foyers fiscaux. Donc, ça restait quelque chose... quand on parle de taxe Zucman, ça touche 2000 foyers. Et même quand on regardait la base fiscale qu'il a envisagée, qui a environ 3 familles, qui représentait presque 50% de cette base fiscale, quoi. Ou 10 familles, c'était 70% de la base fiscale. Donc, en fait, dans les débats politiques, et c'est peut-être le talent marketing de Zucman, c'est d'avoir ciblé le débat sur les ultra riches. Et donc, en fait, ça donne l'impression à 99% des Français que ça ne les concerne pas. Alors que même l'ISF avait une base fiscale beaucoup plus large. Et donc c'était
1,5 million de patrimoine. Enfin, c'était, je crois à l'époque.
C'était un peu moins. Je veux pas dire de bêtises. C'était un peu moins. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a un peu un hiatus entre le débat politique où c'est vraiment ciblé les ultra riches.
Qui n'existe pas statistiquement pour.
Et sur ce que disait Gaël aussi sur les différentes mesures pour réduire le déficit, là, qu'est-ce que ça vous inspire
Les Thomas, pauvres, les riches.
Voilà, une augmentation des impôts pour les Français les plus riches, alors avec ce seuil des 5 000 euros, réduction des aides sociales, réduction du nombre de fonctionnaires, ce sont un peu les trois premières mesures, taxer l'entreprise, c'est en bas, puis alors augmentation des impôts pour tous les Français, là évidemment. Il y a quand même 14% qui répondent allons-y. Hein.
On peut dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être une prise de conscience qu'il y a un décrochage relatif de l'économie française et de l'économie européenne. Donc, il faut mettre le paquet pour soutenir le tissu productif. Ensuite, bon, c'est vrai que ça ne correspond pas forcément aux grandes mesures d'un point de vue des masses budgétaires. Il faut rappeler que depuis 2000, 2/3 de l'augmentation des dépenses publiques, c'est lié aux dépenses sociales et essentiellement les dépenses de retraite et de santé. Donc, ce n'est pas le RSA, ce n'est pas la redistribution au sens des aides sociales, comme on peut l'entendre, il me semble, dans ce sondage. Ça pèse relativement peu d'un point de vue macroéconomique. C'est la même chose sur les fonctionnaires, sur les dépenses de l'État. Il faut voir que depuis 30 ans, par exemple, les dépenses de fonctionnement de l'État, elles ont baissé d'un point de PIB. Quand on regarde le nombre de fonctionnaires de l'État, ce n'est pas ça qui a augmenté depuis 30 ans. Ce qui a augmenté, c'est surtout les dépenses, les fonctionnaires des collectivités territoriales et les personnels hospitaliers. Donc, il y a aussi un petit écart entre la perception sur un peu la gabegie de l'État et la réalité économique. Ouais. C'est qu'en fait, non, l'État, il n'y a pas de gabegie au niveau de l'État. Par contre, si les dépenses publiques augmentent, c'est avant tout les dépenses sociales et puis ensuite les dépenses des collectivités territoriales. Peut-être juste un mot sur les riches. Je vais m'arrêter là pour laisser passer.
Moi, je trouve que le recul de la tentation de taxer les entreprises est une vraie victoire. Nous avons raison de prendre part au débat parce que la prise de conscience que nos entreprises sont trop taxées, que si elles sont trop taxées, elles ne peuvent pas se développer, que si elles ne peuvent pas se développer, elles ne créent pas d'emplois. Cette logique-là est une logique qui, je pense, est le fruit de la participation des entreprises au débat public, de leur pédagogie de ce qu'est l'économie vis-à-vis des politiques. Les raisonnements simplistes, il n'en reste, mais elles restent, enfin, ils sont de moins en moins propagés dans la société. En tous les cas, le contre-feu existe. Et vous parliez de l'attaque Zucman. L'attaque Zucman est une réussite marketing formidable, dévastatrice, mais il faut saluer l'artiste. C'est à nous de prendre conscience de l'impact des discours que l'on peut avoir dans la société, de la manière dont ils percolent sur la conscience collective. Nous devons impérativement continuer et amplifier la présence des entrepreneurs dans le débat public, parce que à l'évidence, ça finit par résonner. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'il y a d'autres éléments qui sont extrêmement précieux. Le dynamisme de création d'entreprises de notre pays qui est spectaculaire. Hein. On n'arrête pas d'augmenter le nombre de créations d'entreprises tous les ans. On a dépassé le million. Alors, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs dans tout ça. Et puis, bien entendu, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Mais ça veut dire que aussi tous les Français ont autour d'eux des entrepreneurs. Il côtoie des entrepreneurs. Entreprendre, c'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre, c'est pas une caste. Et de ce point de vue-là, la démocratisation de l'aventure entrepreneuriale est un élément très important, parce que chacun se dit, oui, mais enfin, si on augmente les taxes, c'est moi, c'est mon fils, voilà, des gens que l'on connaît, qui peuvent être pénalisés. Et je pense que nous devons impérativement, vous savez qu'il y a le cercle des entrepreneurs engagés, 300 pour la France, enfin tous ces mouvements qui, à côté du MEDEF, font la diversité de la parole entrepreneuriale, nous devons continuer à le faire, parce que ça a véritablement un impact sur l'opinion publique.
Et c'est Français. Bien justement que ces patrons prennent plus de place aussi. Hein. Je regardais dans la PQR maintenant, régulièrement, et on l'avait un peu moins auparavant, mais il y a toujours une deux pages sur l'économie locale, où on explique un peu pourquoi tel patron est venu se réimplanter ici, pourquoi il va agrandir, pourquoi...
Mais toute l'aventure de la réindustrialisation est une aventure qui parle aux Français, et je pense que ça leur donne aussi le sentiment que c'est par là, par le terrain, que notre pays est en train de reprendre pied.
Thomas Gévin.
Sur le débat sur la taxe Zucman, il y avait un autre débat qui avait eu, où on parlait pas mal l'année dernière, c'était Nicolas qui paye.
Oui.
Et ce qui est intéressant, c'est que si on reprend ce seuil de 5 000 euros par mois, qui correspond en gros à 10% des plus hauts revenus, c'est aussi une des catégories qui contribue le plus en net. C'est-à-dire que vous regardez les chiffres de l'INSEE, et que quand vous reprenez les 10% les plus aisés, leur revenu avant et après impôt est réduit autour de 25%. Donc il y a une baisse. Et quand vous reprenez maintenant la redistribution élargie que calcule l'INSEE, c'est-à-dire quand vous prenez en compte les services publics, l'éducation et tout, pour cette catégorie de revenus, c'est presque 40% de différence entre le revenu qu'ils ont avant impôt et ce qu'ils ont après cette redistribution élargie. Donc c'est aussi ce qui peut expliquer que peut-être les Français sont moins sensibles à taxer cette catégorie de la population qui est déjà une catégorie qui paye beaucoup, et donc c'est aussi la tentation d'aller vers ces super riches qui, eux, sont justement pas notre voisin. Quoi.
Et puis identifiable aussi avec quelques noms et que l'on peut... remarque sur lui. Gaël, pour conclure sur ce sujet-là.
Deux choses peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire l'un et l'autre. Effectivement, le Nicolas qui paye, c'est intéressant, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est le pays qui, en termes de redistribution, ça aussi, c'est pas forcément perçu par les gens qu'on interroge, le pays qui, en termes de redistribution, va le plus loin. Par exemple, qu'on est sur des écarts de 1 à 8 au départ entre les différents déciles, premier, dernier, et que, à la fin, avec la redistribution, on va se retrouver sur un écart de 1 à 3. Donc, on est un pays qui est très égalitaire, même si ce n'est pas forcément toujours ce que perçoivent les Français. En tout cas, ils ont plutôt le sentiment d'une dégradation de cet égalitarisme, de ce nivellement, appelez ça comme vous voulez. Ils ont un sentiment de dégradation. Et donc, on finit par Nicolas qui paye. Et dans Nicolas qui paye, il y a aussi cette idée Il y avait des relents parfois un peu racistes, dans c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelait Nicolas, en suggérant que c'était toujours sur lui que ça retombait, alors qu'en réalité, vous l'avez dit je crois, sur le système de redistribution, ça joue aussi beaucoup, et ce que dépense l'État sur nos seniors, qui s'appellent souvent Nicolas aussi, et qui sont eux qui pèsent assez lourd dans notre système, en termes de retraite, en termes de santé. Et puis ce que disait Léonidas, j'allais dire Nicolas, sur l'aspect entreprise, oui, bien sûr que c'est pour cette raison qu'en l'espace de 5, 7, 10 ans, on a vu se retourner complètement ce que j'enregistrais sondage après sondage, c'est-à-dire on peut toujours taxer plus les entreprises, nous disaient les Français auparavant, et aujourd'hui ils ne nous disent plus cela, parce que d'abord, ils ont le sentiment que si on taxe les entreprises, les primes, les augmentations d'impôts, ils n'en verront pas la couleur, que le chômage, ça va les toucher et que leurs entreprises n'embaucheront pas. Et puis, vous l'avez dit, Léonidas, le fait que l'entrepreneur, ce n'est plus dans la représentation collective. D'ailleurs, vous avez vu le mot qu'on emploie, entrepreneur. Ce n'est plus le patron avec les dessins à l'ancienne, avec le chapeau et le gros cigare. C'est devenu effectivement un jeune éventuellement qu'on connaît, un cousin, un beau-frère, et donc il n'est plus exotique pour les gens. C'est quelqu'un à qui qu'ils peuvent côtoyer.
Et puis on leur a donné un peu plus la parole. Alors,
et puis on en
évidemment,
parle de plus en plus.
Évidemment chez BFM Business, mais on voit même les médias mainstream qui leur donnent beaucoup plus la parole.
Et puis la politique, le reflux de la crédibilité des politiques joue aussi en négatif, en creux, en faveur d'autres acteurs et notamment de l'entreprise.
Il me semble que c'est une évolution importante de l'économie française depuis une dizaine d'années, c'est justement cette désirabilité qu'on observe, il me semble, notamment chez les jeunes, vers l'entrepreneuriat.
Absolument.
Alors, ils veulent davantage être des chefs d'entreprise plutôt que des fonctionnaires.
Allez,
et c'est vraiment des bonnes nouvelles.
Et on va conclure notre première demi-heure de ces experts. Merci d'être avec nous. Je rappelle Léonidas Kalogeropoulos, Gaël Siman et Thomas Gébinon. On marque une très courte pause. On se retrouve juste après. On va parler de souveraineté numérique. Et puis, on va revenir aussi sur les atermoiements allemands face à la Chine. Et puis, je vous l'ai dit, si on a le temps, on me donnera un petit mot sur le marché automobile. C'est tout de suite sur BFM Business.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.